Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h, le thermomètre affiche 27 degrés Celsius sur Bamako et environ. Bonsoir à tous, voici les titres. Après l'attaque meurtrière du village de Djigigombo, une accalmie règne dans la zone. Pour une solution pérenne au centre du pays, des observateurs proposent un dialogue franc entre les acteurs. Le Conseil des ministres a adopté hier des projets de décret relatifs au nouveau code minier. Ces textes prévoient des obligations environnementales et de protection des personnes ainsi que les développements communautaires. Éliminatoire CAN-Maroc 2025, le Mali évolue dans le groupe I avec le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Le coup d'envoi des éliminatoires est prévu au mois de septembre prochain. Voilà pour les sommaires. Les détails, c'est tout de suite avec Lala Diarra Touré. Ibrahim Sanogo assure la mise en onde. Merci pour votre constante fidélité. Bienvenue à tous dans cette édition. Je le disais au sommaire, le calme est revenu à Djigigombo après l'attaque terroriste qui a fait 21 morts et des dégâts matériels importants lundi dernier. Cette attaque a provoqué les déplacements massifs de la population du Djigigombo vers Badiangara et d'autres localités voisines, affirment des élus locaux. Les détails avec Fatih Yattara.
C'était un petit soir normal comme les autres à Djigibomo. Certaines familles sont au champ ou dans leurs tâches quotidiennes et ménagères, d'autres chez des proches pour un mariage. C'est dans cette atmosphère que des hommes lourdement armés ont fait irruption et ont tiré sur tout ce qui bouge, explique un élu local. Après avoir tué plusieurs personnes, dont des hommes pour la plupart, ils ont ensuite procédé à la vandalisation et au saccage des maisons, greniers, boutiques et même les CSCOM, confirme des rescapés. Ces derniers ajoutent qu'à ces jours, le village est complètement désert. Toutefois, plusieurs convois de l'armée malienne sont sur place pour le ratissage et la sécurisation des lieux depuis mardi dernier, rapporte des sources locales. L'association Guina Dogon a condamné cette attaque qu'elle qualifie de barbare et inhumaine. Elle demande aux autorités de reconsidérer leur plan de gestion sécuritaire afin de faire régner la paix. Il y a quelques jours, la direction de l'information et des relations publiques des armées déclarait que les groupes armés ont changé de mode opératoire. Ils ciblent désormais les populations civiles et n'attaquent plus directement les femmes.
Et sur le même sujet, certains observateurs pensent que l'offensive militaire à elle seule ne pourra pas gérer la situation sécuritaire au centre du pays. C'est en tout cas l'avis de l'analyste des questions sécuritaires, Yida Dial. Pour stabiliser les centres du pays, les spécialistes préconisent de prôner un dialogue sérieux entre les acteurs de la localité. Ils le jouent au téléphone par Fatih Yattara.
Pour que la paix revienne dans cette zone du Mali, il faudrait d'abord détecter les vrais acteurs et que les vrais acteurs s'assoient entre eux pour dialoguer et trouver la solution. C'est le seul moyen. Si aujourd'hui on prend par exemple dans la zone de Bandiagara, si toutefois les acteurs qui s'affrontent entre les communautés, certains se réclament d'être des Dozo et d'autres se réclament d'être des djihadistes. Donc ce sont ces vrais acteurs qui vont s'asseoir pour discuter, essayer de trouver une solution. Parce que quand on constate, le conflit n'est pas communautaire ni intercommunautaire, mais c'est un conflit entre des acteurs. Ces deux acteurs, s'ils parviennent à s'entendre et trouver un accord, la paix va revenir.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. 149 migrants maliens, dont une femme et deux enfants en provenance du Niger, sont rentrés au pays. Après les formalités d'arrivée, ils ont été conduits à la maison des Maliens de l'extérieur. Ils doivent recevoir une assistance pendant 72 heures avant de rejoindre leur localité respective. Cette initiative, selon le ministère des Maliens de l'extérieur, témoigne l'engagement à soutenir les patriotes en situation de vulnérabilité et à faciliter leur réintégration dans de bonnes conditions. Autre titre de cette édition, les obligations environnementales, la protection des personnes ainsi que les développements communautaires. C'est ce qui ressort de la loi portant code minier en République du Mali. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi soir le décret qui fixe les conditions et les modalités d'application de cette nouvelle loi. Cette décision intervient après l'audit des mines d'or en exploitation, commanditée en exécution des recommandations des Assises nationales de la Refondation. Le point avec Moussa Malé Sissoko.
Après la relecture du code minier et l'adoption d'une loi relative au contenu local dans le secteur minier, le Conseil des ministres prend le décret d'application du document. Ce décret apporte des précisions, notamment sur les dispositions relatives à la demande, à la détention, au transfert, à l'annulation ou au retrait des titres miniers et autorisations. Le document explique la détermination et le mode de calcul des redevances additionnelles. Il envisage également la surveillance administrative et la police des mines. Pour la phase phase d'exploitation, le décret cite les conditions de réalisation de l'activité minière sur le territoire national. Il s'agit notamment des obligations de garantie, des dispositions fiscales, douanières, économiques et financières. Le décret d'application précise, entre autres, les obligations liées au contenu local relatives à l'approvisionnement, à l'emploi et à la formation professionnelle. Il prévoit également la promotion et l'utilisation des biens et services locaux, le transfert des technologies, de compétences et de développement.
Dans un autre registre, la Haute Autorité de la Communication, HAC, invite les radios et les télévisions du Mali à ne plus faire la publicité non autorisée des médicaments traditionnels sur leurs antennes. Elle l'a annoncé ce matin lors d'une rencontre qui a regroupé les fêtières de la presse, de la santé et des thérapeutes. L'objectif est de contrer les publicités mensongères et nuisibles sur la santé des populations. Gossou Koulibaly, président de la HAC, est au micro de Fatoumata Kodjo.
Cette publicité tapageuse, mensongère, est dangereuse pour la population. Nous avons estimé qu'il faut passer à une autre étape, élargir le cercle de l'information et de la sensibilisation. Personne ne puisse plus dire que je n'étais pas au courant. Et cette publicité sur les médicaments traditionnels, que les radios abandonnent cette activité et se recentrent sur autre chose. Elles nous ont dit, certaines radios, voilà, c'est notre principale source de revenus, alors nous privons de ça, nous allons fermer. Mais j'ai dit, est-ce qu'on doit permettre à un individu de se faire de l'argent et en vendant du mal? Personne n'est obligé d'ouvrir une télévision privée, une radio privée. Et là, nous allons assumer notre partition. Que les uns et les autres ne soient pas surpris s'il y a résistance et qu'elle soit accompagnée de sanctions.
Un mot de sport à présent dans ce journal. Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini. Ainsi se compose le groupe I des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Maroc 2025. Le tirage au sort de la compétition a été effectué ce jeudi après-midi à Johannesburg en Afrique du Sud. Le coup d'envoi des éliminatoires est prévu au mois de septembre prochain. 12 groupes constitués de 4 équipes chacun vont disputer ces éliminatoires.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Notre dossier de la semaine s'intéresse à la durée réelle d'une grossesse sur le plan médical et traditionnel. Chacun a ses réalités et travaille avec ses convictions, nous disent médecins et conservateurs. Les développements avec Adamo Amadou Haïdara.
Une grossesse, appelée aussi gestation humaine, est l'état d'une femme enceinte, c'est-à-dire portant un embryon ou un fœtus humain. Et ce fœtus a une durée bien déterminée pour se développer, certifient les spécialistes de la santé. Dr Samba Traoré, gynécologue, ajoute que si une grossesse dépasse cette période, il y a une anomalie.
Une grossesse peut être considérée normale jusqu'à 41 semaines ou 42 semaines. 42 semaines correspond à 10 mois. Bon, exceptionnellement, la grossesse peut aller jusqu'à 43 semaines, mais on dit la grossesse prolongée, c'est pas normal. Si déjà la grossesse atteint les 42 semaines, quand tu ouvres, tu vas trouver que pratiquement même pas les liquides au-dessus de l'enfant. Qui dit absence de liquide, dit souffrance qui est là. Parce que dans ce liquide-là que l'enfant trouve, c'est besoin. Certains peuvent avoir des gros kystes et confondre avec la grossesse. On peut ne pas voir les règles sans être enceinte. Donc tant que la grossesse n'est pas prouvée par une échographie, on ne peut pas dire que la grossesse est là depuis longtemps. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé.
Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Mais les traditionalistes ont une explication différente. Salia Daou est un enseignant à la retraite à Yorosso et également traditionaliste.
Oui, souvent, il y a des conflits entre les gens. Une femme qui a eu des aventures avec un homme, par exemple, et à la longue, elle boude cet homme-là pour aller se marier avec un autre homme. Pour se venger, quand la femme tombe en état de grossesse, il fait tout sur le plan occulte pour bloquer le processus de développement de l'enfant.
C'est une autre réalité chez les forgerons. Dans cette classe sociale, on affirme que les femmes enceintes peuvent faire jusqu'à 12 mois avant d'accoucher. Amadou Traoré est forgeron à Zahanga, dans le cercle de
Kadjoulou.
Moi, ma femme accouche prématurément. Il y a des femmes dont la grossesse arrive à terme au 7e mois. Ensuite, nous avons aussi des femmes dont leur grossesse peut durer 11 mois, voire 12. On les appelle les femmes jumeaux. On pense que c'est une maladie, mais non.
Fatoma Koulibaly, aussi forgeron, explique cette réalité par le fait que le savoir était bien entretenu par les sages du village.
Chez nous, la décision vient de nos sages. C'est eux qui donnent l'autorisation à la femme d'aller pour l'accouchement. Sinon, si une femme décide toute seule, elle n'aura pas la bénédiction des sages et elle doit s'assumer en cas de complications. Ici, la décision incombe aux aînés.
L'arrivée d'un nouveau-né dans la famille est toujours signe de bonheur, dit-on. Qu'il arrive à temps ou plus tard, c'est toujours la joie.
Cela est sûr, Adama Aïdara. Avant de refermer cette édition, Imran Akilou Maïga vient de nous rejoindre dans ce studio pour l'introduction du débat de ce jeudi. Imrana, bonsoir.
Bonsoir, Lala.
C'est quoi le thème du débat de ce soir? Sont vos invités?
Quelle solution à la pollution plastique au Mali? Et nos invités sont Mahamadou Karamogo Diara, directeur exécutif de Mali Folk Center, Adama Sambou Sissoko, environnementaliste, et Madame Kouyaté Goundo Sissoko, présidente du réseau des femmes pour les droits environnementaux.
Merci beaucoup, Imran Akilou Maïga. Un débat que vous pourrez suivre en direct après ce journal. Vous pouvez réécouter gratuitement cette édition et les magazines qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. C'est l'essentiel qu'il fallait donc retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Somptueuse soirée à tous.
À vous parents, papa et maman, ces messages vous êtes adressés.
Vous devez avoir les réflexes de déclarer votre enfant dès sa naissance. Votre enfant doit avoir un acte de naissance.
Déclarer un enfant à la naissance est un acte de grande importance et un geste de bon citoyen.
Déclarer un enfant à la naissance est le premier des droits de cet enfant, puisque c'est ce droit qui ouvre l'accès à tous les autres.
Sans acte de naissance, votre enfant n'existe pas devant la loi.
La délivrance d'un acte de naissance est gratuite à la mairie.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas aller à l'école plus tard.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas bénéficier des programmes de santé. Il sera exclu de bien d'autres avantages encore.
Sachez également que les parents ont un délai maximum de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour déclarer la naissance de leur enfant.
Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif qui peut prendre plus de temps et d'argent.
Déclarer son enfant à la naissance, c'est lui donner un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec l'UNICEF grâce au soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement.
Une grande majorité des adolescents et jeunes manquent de tact quand il s'agit de s'adresser à leurs parents. Contrairement, d'autres sont absolument capables de s'exprimer avec respect. Certains parents révèlent du laxisme dans l'éducation des enfants. Des sociologues vont plus loin et parlent de la démission des parents comme première cause de délinquance chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces phénomènes? Dans ce dossier, nous donnons la parole aux jeunes, aux parents et aux religieux. C'est une réalisation de Rokia Conseil.
Cette génération bouscule les codes de vie en société. Certains adolescents se trouvent très différents de leurs parents, d'où le manque de compréhension. Ces attitudes entraînent souvent des dérives, comme en témoignent ces adolescents.
Ma mère a des problèmes d'audition. Si je dois lui parler, je m'approche en lui parlant avec respect. Mais des fois, elle s'énerve vite.
Souvent, ce qui te pousse à lever le ton, c'est quand tu es fâché ou bien si tes parents te font des reproches sans cesse. C'est énervant et tu leur parles mal.
Il y a certaines drogues, quand tu les consommes, tu regardes tes parents droit dans les yeux et tu les parles sans recul.
De nombreux parents reconnaissent leur responsabilité dans cette désobéissance des enfants envers les aînés. Ils évoquent plusieurs facteurs.
Nous les parents, on a vu notre responsabilité. Personne ne peut l'éduquer en dehors même de la famille.
Les obligations parentales sont nombreuses aujourd'hui. Les enfants et les parents sont loin les uns des autres. Alors, le contrôle de l'enfant est difficile.
Le père est fonctionnaire, la maman elle est fonctionnaire et il laisse les enfants dans les mains de boys de bonne qui les élèvent à leur guise. Cela fait que les enfants perdent l'essentiel.
Les traditionalistes maintiennent la valorisation de l'éducation culturelle qui inclut une pédagogie collective en société, c'est-à-dire impliquer la société dans l'éducation de l'enfant, insiste Adama Diallo, traditionnaliste.
Auparavant, l'enfant appartenait à toute la société, pas qu'à ses parents. Sur le plan humain et social, l'éducation de l'enfant concernait toute la communauté et l'enfant grandissait avec ses valeurs. Ainsi, il respectait non seulement ses parents, mais aussi ses aînés. Et puis, il était responsable face à ses petits frères.
Pour circonscrire au phénomène, les sociologues préconisent un changement profond, à commencer par les parents. Yida Seydou Dial, enseignant-chercheur, donne des explications.
L'éducation commence à partir de la famille. Il faut vraiment que les parents même changent. Tant que les parents ne changent pas, les enfants ne pourront pas
le respecter. Changer comment? Montrer à un enfant sa place. Même si tu as les moyens de faire certaines choses, il faut les refuser. Comme ça, si l'enfant grandit, il saura, voilà, bon, certaines choses, on ne va pas accepter pour moi et d'autres choses sont permises pour moi.
L'islam accorde une place importante au respect des parents. L'imam Boubacar Bakayna Cissé nous explique les exigences de la religion musulmane.
Si tu ne respectes pas tes parents, le Tout-Puissant ne va pas accepter tes prières. C'est pourquoi il est demandé aux enfants d'être soumis à leurs parents et leur venir en aide, en cherchant de la bénédiction pour être un enfant béni.
La quatrième recommandation des 10 commandements de Moïse dans le christianisme recommande le respect des parents après celui de Dieu. C'est ce qu'affirme le pasteur Abdul Koulibaly de l'Union des Églises protestantes et évangéliques du Mali.
Si tu éduques l'enfant dès le bas âge avec les paroles de Dieu, l'enfant aura une bonne éducation. Le Proverbe chapitre 22, verset 6 qui dit « Instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. »
Pour assurer un bel avenir aux enfants et bénéfique au développement du pays, l'implication des parents est incontournable. À travers une éducation de qualité, indiquent nos différents intervenants. Le sociologue conclut que chaque parent se doit d'être un bon exemple devant ses enfants.